Jusqu'à 11h, Wendy Bouchard.
Europe 1.
9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Et avec un grand plaisir, chers amis, en compagnie de Julie, on s'intéresse maintenant au phénomène littéraire. Alors, il y a le top 50 en musique, le box-office pour le cinéma, les meilleures ventes pour les livres. Vous les trouvez d'ailleurs dans un certain nombre d'hebdomadaires, consultables chaque semaine. Et avant même la vente, il y a toute une étape et une retape qui nous dépasse parfois. Une mise en place pharaonique comme celle-ci, 320 000 exemplaires du dernier roman de Michel Houellebecq, diffusé depuis vendredi dans toutes les librairies de France. C'est dire si Flammarion, son éditeur, s'attend à un carton. Comment expliquer cet engouement des lecteurs, le marché qui va avec, au-delà du phénomène Houellebecq, on parle du succès en littérature, du travail d'écrivain dans tout ça. Lecteur de tous les auteurs, vous nous appelez, hein, Houellebecq ou non, en tout cas on vous écoute au Standard d'Europe 1 dès maintenant, Julie.
Le Standard d'Europe 1, c'est le 3921.
Et les réseaux sociaux, le hashtag.
9h, 11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et avec nos invités, les femmes représentées aujourd'hui, Sophie de Closet, directrice des éditions Fayard. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Nelly Caprielian, avec nous également, responsable de la rubrique Livre des Inrocks. Bonjour.
Bonjour Wendy.
Mesdames, n'hésitez pas à nous dire tout ce que vous pensez de Michel Houellebecq comme nos auditeurs. Alors on va dépasser ce cas-là, mais évidemment, lorsqu'on travaille dans la matière littéraire comme vous Nelly, lorsqu'on travaille dans l'édition, Sophie, impossible de ne pas occulter ce phénomène-là. 493 romans attendus d'ici la fin février et le Sérotonine de Michel Houellebecq qui risque d'éclipser l'essentiel. Alors évidemment, Fayard va monter haut les couleurs de sa maison d'édition, mais de mémoire de patronne de maison d'édition, une mise en place comme ça de 320 000 exemplaires, c'est assez rare.
Oui, c'est assez rare. Il y en a quelques-unes seulement par an et puis c'est assez rare pour les romans. Il y a une poignée d'auteurs de livres qui ont des mises en place aussi importantes.
Par exemple
Guillaume Musso,
oui.
Aurélie Valogne, Marc Lévy, Joël Dicker, Fifty Shades of Grey ou des best-sellers étrangers ont pu avoir des mises en place aussi importantes, ou Michelle Obama a une mise en place.
C'est ce que j'allais dire, que vous publiez son autobiographie, mise en place importante aussi.
Devenir,
à combien?
Oui, à 150 000 exemplaires.
Oui, et là c'est déjà très important, les chiffres que nous manions ce matin, Nelly Caprielian. Depuis une dizaine de jours, c'est vrai que la presse ne parle que de cette sortie en librairie. Pour les 492 autres romans, publications, c'est difficile. Alors votre rôle à vous aussi aux Inrocks, c'est de mettre en valeur les autres là. Mais de la même manière, on ne peut pas passer à côté de ce phénomène Houellebecq. Ça veut dire
non,
quelque chose
pas, oui, bien sûr, on peut pas passer à côté. C'est vrai que notre rôle, c'est de mettre aussi les autres en valeur. Parce qu'une fois qu'on a publié un article sur Houellebecq, disons un deuxième, on va peut-être pas faire un mois non plus sur Houellebecq. Oui. On a des pages toutes les semaines aux Inrocks. Non, c'est intéressant ce phénomène des 320 000. Je pense que c'est aussi dû, Sophie, enfin, tu me diras si c'est un peu pareil pour toi, mais Soumission, c'était quand même 800 000 exemplaires, hein, il y a 4 ans, le dernier roman de Houellebecq. Donc je pense que c'est calculé en fonction des ventes précédentes. Mmh. Et je pense qu'en effet, moi j'ai beaucoup entendu, enfin les éditeurs généralement, et surtout les auteurs qui sortent en même temps qu'un Houellebecq, je les entends me dire « Ah merde, il y a un Houellebecq qui sort, ça va être dur ».
Ah oui, et je relais les mots de Patrick Besson, éditorialiste et écrivain dans Le Point, que j'ai beaucoup aimé cette semaine. Ne pas être Michel Houellebecq est l'erreur la plus grossière dont les auteurs français puissent se rendre coupables en ce début du troisième millénaire. Et ils sont nombreux à l'avoir commise, tous sauf un, en fait, lui. Bah oui, c'est évidemment difficile d'exister.
Oui, en même temps, ça va faire venir du monde en librairie, ce qui est plutôt réjouissant parce que généralement, le début d'année n'est pas une période de grosses ventes. La rentrée littéraire de janvier qui s'est imposée comme un deuxième rendez-vous dans la vie littéraire et une rentrée importante où il y a quand même un problème parce que voilà, les gens ont dépensé beaucoup d'argent pendant les fêtes, le livre reste le premier cadeau, en plus là il y a le prélèvement à la source, un climat un peu compliqué, donc du coup dans cet environnement-là, avoir un événement littéraire qui va faire du trafic en magasin reste quand même une très bonne nouvelle pour tout le monde.
Ah, ça c'est bien, voilà, de voir cela de manière optimiste aussi. Ce qui est intéressant, et après on ira dans le fond, mais on expose un petit peu les faits de cette émission, c'est qu'il y a, Nelly Caprielian, une coïncidence souvent, une concordance souvent entre l'écriture de Houellebecq, vous avez lu Sérotonine, et le contexte, le climat social, politique dans lequel il sort cet ouvrage-là. C'était très probant, hélas, avec Soumission, publié le jour des attentats de Charlie Hebdo en 2015. C'est un peu le cas aussi ici, dans ce roman, ancré dans un monde agricole, de contestation, de revendication.
Oui, c'est intéressant parce que Michel Houellebecq, et je pense que c'est pour ça que c'est aussi devenu un phénomène de société, il appuie vraiment là où ça fait mal, au moment où ça fait mal. Et on a l'impression qu'il l'anticipe à l'avance. C'est-à-dire qu'il est visionnaire, il est une sorte de... comme un médium qui capterait les esprits. Je pense que tous les grands écrivains et tous les grands artistes sont comme ça. Maintenant, ce qui est aussi fascinant chez lui, c'est qu'il y a une forme de cohérence. C'est-à-dire, ça fait 24 ans qu'il s'attaque toujours plus ou moins à la même chose. C'est-à-dire la globalisation, l'ultra-libéralisme, le marché à tout prix qui réduit les êtres à une forme de compétitivité et qui, voilà, s'ils ne peuvent pas accomplir ses performances, ils sont des losers et de l'amour et de la société et tout ça. Là, on retrouve dans Sérotonine exactement les mêmes thèmes, sauf que là, alors c'était, il rétablissait une forme d'ordre dans Soumission en imaginant que l'islam prendrait la tête du pays. Et là, dans Sérotonine, là, il s'en prend à l'Europe. L'Europe comme visage de l'ultralibéralisme qui permet le libre-échange et qui fait que, dans Sérotonine, les agriculteurs vont se retrouver sur la touche et vont fermer leurs fermes et vont mourir.
Et vous voulez dire qu'on sait ce qu'on trouve dans un Houellebecq.
Voilà, c'est un peu toujours pareil depuis 24 ans, sauf que à chaque fois, le visage, l'ennemi ou le vecteur ou le baume change. Voilà. Mmh. C'est à chaque fois un autre sujet et on dirait qu'à chaque fois, il appuie là où vraiment ça fait mal. C'est quand il a publié Soumission, on ne pouvait pas savoir qu'il allait...
Bien sûr.
Il écrit, quand on écrit un livre, c'est un an, deux ans, quatre ans. Donc, il était vraiment... il sentait l'air du temps. Voilà. Il sentait c'est que ça. L'islam, c'était un des sujets.
Et l'intuition, Sophie de Closet, vous qui êtes directrice de la maison Fayard, c'est aussi une qualité d'un auteur. Sentir, être en phase avec son lectorat, évidemment. Alors qu'on écrive des romans, des essais...
Bien sûr, je dirais même que tous les très gros best-sellers sont toujours en gros des livres dont les auteurs ignoraient que tout le monde les attendait au moment où ils les écrivaient. Et qu'il y a toujours une sorte de rencontre un peu inattendue et espérée secrètement entre des attentes du public que le public n'avait pas formulées comme ça et un livre qui arrive au bon moment et qui excède les attentes des éditeurs ou des auteurs. Et en ça, Michel Houellebecq...
Oui, mais c'est toujours
quelque chose de mystérieux.
Voilà, du désir du lecteur qui n'est pas nommé et l'auteur
et répond avec elle.
Mais il y a quand même un truc qu'il faut préciser dans tous les auteurs, en effet, que Sophie a cité, qui sont des grosses machines, des blockbusters. Michel, c'est le seul qui est fondamentalement littéraire, quand même. Et là, c'est miraculeux. Ouais. Parce que Guillaume Musso et Marc Lévy, c'est pas de la littérature.
C'est des romans. Littérature.
Ouais. Voilà, non, mais c'est des romanciers. Mais là, c'est aussi de la littérature. C'est-à-dire, il y a aussi du roman, il y a aussi un art romanesque qu'il maîtrise complètement et c'est un vrai écrivain. Voilà. Donc là, je trouve que c'est un phénomène extrêmement rare. C'est-à-dire, c'est pas Twilight. C'est ce que j'appelle de la littérature.
Même dans les essais, il y a ce malentendu, plutôt cette rencontre miraculeuse. Le livre du général de Villiers, Qu'est-ce qu'un chef, qu'on a publié en novembre dernier. Évidemment, on ne pouvait pas savoir que le mouvement des Gilets jaunes existerait et ni même prendrait l'ampleur qu'il a eu. Le livre est sorti avant, il a écrit pendant une année avant. En sentant une sorte de déclin de l'autorité, il s'est dit que c'était un sujet dont il avait senti que tous les Français... étaient concernés. Le livre est sorti et quelques semaines plus tard, le mouvement des Gilets jaunes est arrivé en montrant à quel point c'était un problème qui était vraiment problématique et douloureux pour tout le monde. Et le livre s'est envolé dans les listes de meilleures ventes.
Combien ?
On en est à 100 000 exemplaires vendus en un mois et demi, c'est énorme.
Sophie de Closet, directrice des éditions Fayard, est avec nous. Nelly Caprielian également. On parle de Michel Houellebecq, des phénomènes littéraires. Et je vois en régie Nicolas Caro, qui est notre ami de la maison, journaliste ici, qui a réalisé une interview de Michel Houellebecq. On vous fera écouter un tout petit extrait juste après la pause. Et vous l'écouterez attentivement parce qu'il ne donnera pas d'interview à Michel Houellebecq. Il n'en a plus besoin. En tout cas, c'est comme ça que nous, on peut l'analyser pour la sortie de ce 7e roman, Sérotonine. C'était vendredi. À tout de suite sur Europe 1.
Nous analysons le phénomène Houellebecq ce matin jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités, Sophie de Closet qui est directrice des éditions Fayard et Nelly Caprielian qui est responsable de la rubrique Livres des Inrocks. Et je voudrais signaler la sortie en décembre d'un hors-série des Inrocks sur Houellebecq. Il est en vente jusqu'à fin janvier et vous y retrouverez tous les entretiens qu'il a donné aux Inrocks
depuis 24 ans.
Absolument.
Vous l'avez interviewé. Parce que là, il ne donne pas la parole. Il a décidé de...
Et pourquoi ? Alors, vraiment parce qu'il n'en a pas besoin ou parce que ça le dépasse tout ça un peu. Il en a plus très besoin.
Je pense aussi que voilà, il a peut-être pas envie d'être acculé à chaque fois à des questions politiques. Je pense que là, on allait tous se précipiter pour lui parler de l'Europe et tout ça, et que peut-être il a pas voulu. Comme c'est un paradoxe quand même, Michel Houellebecq, il y a un mystère. Michel Houellebecq, c'est un paradoxe. Il vient de publier dans Harper's, qui est une revue de gauche littéraire et de gauche américaine, un texte où il parle de ses idées politiques.
Donc des paradoxes et la provocation quand même aussi.
Alors moi, je pense pas qu'il soit provocateur. Oui, je pense qu'il est assez sincère. Il n'y a pas de provocation, il n'y a pas de cynisme. Je pense que c'est quelqu'un qui est très sérieux.
Quelles sont-elles, ses idées politiques ?
Alors là, c'est un texte dans Harper's pour Trump, pro-Trump, en expliquant pourquoi.
Alors,
il le trouve absolument ridicule. Il y a plein de choses qu'il trouve absolument aberrantes chez ce personnage. Et par exemple, il explique pourquoi il aime Trump. Et c'était ce qu'on retrouve dans Sérotonie, c'est-à-dire qu'il est en train de fermer les frontières à l'import-export. Surtout à l'import. Il est en train de privilégier l'Amérique contre le reste du monde. Il est en train de lâcher l'ingérence américaine. Il est en train de plus vouloir intervenir dans les autres pays quand il y a des problèmes. Et ça, c'est les idées de
Oui, et il dit ça, et
Michel,
en même temps, il dit qu'il est abstentionniste.
Nationaliste.
Et abstentionniste.
Voilà. Il ne vote que pour les référendums, dit-il.
Ah, très bien. Vous le connaissez mieux et vous nous parlerez de sa personnalité, Nelly Capriello, ainsi que vous, Sophie Desclozets, directrice des éditions Fayard. Je voudrais que vous l'écoutiez, puisque sa parole va se faire rare pour le coup. Réentendez la voix de Michel Houellebecq, interviewé par Nicolas Caro le 11 octobre dernier. Il obtenait le prix Château La Tour Carnet pour l'ensemble de son œuvre, Houellebecq, une fois de plus.
Il y a une catégorie de phénomènes du monde qualifié de Houellebecquien qui n'avait pas été décrit avant moi, ça c'est vrai. On peut me louer pour ça, pour avoir repéré des modes d'être du monde qui n'avaient pas été repérés avant. Donc ça peut rendre inapte à la vie mes livres. Oui.
Ou au contraire, en prendre conscience et donc être apte à la vie.
Bah, disons que ça peut provoquer des ruptures dans un cours de vie. Mais je ne vais pas m'en excuser parce que j'ai eu ça moi aussi avec des livres. Je pouvais pas continuer à vivre pareil. Donc, c'est une responsabilité lourde. Ça peut être une responsabilité lourde d'écrire des livres. Et je ne vais pas m'y soustraire. Enfin, c'est une activité sérieuse.
Michel Houellebecq qui écrit sérieusement, qui s'est marié à une Chinoise récemment également et qui dit que c'est bien d'épouser une femme qui se lève tard parce qu'il écrit du milieu de la nuit à la fin de la matinée. Donc, ils se sont trouvés. C'est de là. Alors, Houellebecq serait-il heureux ? Serait-il apte au bonheur ? C'est une question qu'on se pose. On trouve une réponse dans Sérotonine ou...
Dans Sérotonine, c'est un peu l'inverse.
D'accord,
il n'y a aucune aptitude au bonheur de la part du narrateur.
Toujours,
oui,
nihiliste.
Toujours nihiliste, toujours désespéré, toujours empêtré dans l'acte, c'est-à-dire il ne peut pas agir. Les femmes qu'il a aimées, il les a laissées partir ou il les a trompées, donc elles sont parties. Il le regrette, surtout pour l'une qu'il va retrouver. Bon, on ne va pas tout raconter.
Oui.
L'amour n'est toujours pas dans le pré. Quoi.
Oui. Voilà. Il dit que à chaque fois, toutes ces histoires ratent de peu. Mais rate de peu, donc pour lui, c'est un
peu optimiste. Il y a une forme de passivité chez le narrateur houellebecquien qui fait que ça va le mener au malheur.
C'est pas un personnage qui vous inspire, Julie, en toute franchise. Comme vous le disiez tout à l'heure, moi j'ai besoin d'être charmée par un auteur pour le lire, pour rentrer dans son univers.
Mais je veux pas insister, moi, parce que j'aurais trop de gens contre moi.
Non, mais ça dépend. Et puis en plus, après, on va ouvrir sur les phénomènes littéraires, mais besoin d'adhésion avec un personnage, en tout cas.
Oui. On a besoin de ça quand on ouvre un bouquin.
Oui, Sophie Desclozets, vous.
Savoir qui l'a écrit. Et d'ailleurs, maintenant, la mode est aux photos des écrivains partout. Avant, on ne voyait jamais
les
écrivains.
Bandeaux,
toute la com se fait
absolument.
Sur... On voit en gros plan dans la pub du bouquin, c'est la photo de l'écrivain et puis...
Accessoirement,
le titre du livre.
Pourquoi Sophie Desclozets ? Michel Obama, par exemple. Là, évidemment, on est dans la
médiatisation. Oui, alors c'est différent quand c'est des mémoires et que la promesse du livre, c'est « je vous fais partager mon intimité, je vais vous raconter ma vie », ça ne paraît pas totalement absurde de mettre la personnalité en avant, puisque c'est quand même ça qu'on vend et c'est la promesse du livre. Je ne suis pas sûre que ce soit si nouveau que ça. Moi, je pense que ça fait quand même une bonne trentaine d'années quand même, qu'on met les photographies en bande des auteurs. Je pense que quand ils ont, d'un point de vue bêtement commercial, quand leur tête est connue parce que les lecteurs les connaissent, ça permet dans une mare de livres qui se déverse sur les tables des libraires d'avoir un effet de reconnaissance du lecteur qui se dit « Ah ben tiens, ça c'est... »
Bien sûr, ça a un impact.
Après, on ne choisit pas les écrivains, on ne les recrute pas sur photo. Ce n'est pas en fonction de leur photogénie qu'ils sont sélectionnés.
Ah bah non, la preuve, en espèce.
donc voilà, mais c'est sûr que ça fait ça devient des personnages publics. Et à partir du moment où ça devient des personnages publics et leur visage est connu, pourquoi se priver de cette manière de faire émerger leurs livres?
J'avais raison. Et puis ce qui est bien, et vous nous le disiez il y a quelques instants, Sophie de Closet, c'est que ça va faire entrer les gens dans les librairies. 320 000 exemplaires de Sérotonine, son dernier roman à Houellebecq, mis en place dans les librairies de France. Dans ce livre-là, il y a une phrase qui peut passer inaperçue pour les habitants des Deux-Sèvres de Niort. Niort est l'une des villes les plus laides qui m'ait été donné de voir. Eh bien, sachez que la librairie des Halles à Niort a déjà vendu la moitié du stock disponible la matinée même de la mise en place. Donc, ils ont de l'humour. Et puis ça ne les arrête pas, voilà, parce que Houellebecq est un phénomène en l'espèce nationale. On fait le tour de ce sujet, Nelly Caprielian et Sophie de Closet, sur les phénomènes littéraires dans leur ensemble. Nous parlerons aussi de Guillaume Musso, de Marc Lévy, de Michel Bussy, de Fred Vargas, des essayistes aussi. Il y en a beaucoup qui marchent très bien en librairie. Dites-nous ce que vous lisez, chers amis. On vous attend maintenant au Standard Europe 1 39-21. Vous pouvez témoigner sur Michel Houellebecq et sur ce que vous lisez, sur ces phénomènes littéraires, ce qu'il vous inspire également. À tout de suite avec Julie.
Europe 1.
320 000 exemplaires mis en place en librairie. On parle du phénomène Houellebecq ce matin avec Wendy Bouchard et ses invités.
Sophie de Closet, directrice d'édition Fayard. Nelly Caprielian, responsable de la rubrique Livre des Un Rock, qui a interviewé Michel Houellebecq à plusieurs reprises. Les Un Rock qui sortent Un Rock 2 spécial Houellebecq, un hors-série formidable, disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois de janvier. Mesdames, on va parler encore quelques instants de Houellebecq avant d'élargir au phénomène littéraire dans leur ampleur, parce que nous avons quelques réactions sur le sujet. Ça va vous permettre de parler de la personnalité et aussi dans l'écriture de Houellebecq. Marie-Laure nous écrit de Saint-Hilaire de Beauvoir. Je n'ai jamais réussi à venir à bout d'un Houellebecq en raison de son pessimisme. Ce n'est pas positif, ce n'est pas constructif, trop à l'image de l'époque actuelle. Mais il y a de l'humour quand même dans les Houellebecq, Sophie de Closet.
Oui, moi je trouve que ces romans sont désopilants, et que dans cette noirceur incroyablement lucide, il y a toujours des phrases qui font mouche, des scènes qui sont évidemment pas à prendre au premier degré.
Très cru, hein. Là, dans le dernier, il y en a aussi des scènes un peu crues.
Oui, il a eu un rapport relativement cru au monde de façon générale. Hein, donc,
ouais, pas qu'à la sexualité.
Mais je trouve que c'est extrêmement drôle. Enfin, je ris toutes les deux pages.
Oui, il y a plusieurs niveaux de lecture, ça veut dire, avec Michel Houellebecq aussi, Nelly
Caprielian. Oui, il y a tous les registres. Ouais. C'est ce qui en fait, je pense, un très très grand écrivain. C'est qu'il est bon dans tous les registres. Et il est bon dans la parodie, il est bon dans la satire, il est bon dans le lyrisme, il est bon dans le romantisme noir, il est bon dans la poésie, il est bon même parfois la vulgarité. Il y a un peu tout ces dans le pamphlet, dans le voilà.
C'est pour ça qu'il irrigue autant de lecteurs.
Et pour revenir à ce que disait l'auditrice, je pense qu'en effet, elle, ça la décourage. Mais moi, mon interprétation, c'est que au fond, c'est aussi ça qui fait la force de Houellebecq, c'est-à-dire ce côté déprimé, le côté nihiliste des personnages, le côté on rate. Voilà, il y a un personnage de raté dans la littérature française, enfin de raté. Qui a voulu rater ou pas. Enfin bon, c'est très compliqué.
Mais il parle de Dieu à ce sujet, non ? Qui a tout raté, non ? C'est pas ça ?
Oui, Dieu est un médiocre. Ouais. Mais je pense que c'est aussi un des drames de Michel Houellebecq. C'est que je pense que Michel est un chrétien sans Dieu, quoi. Je pense que son désenchantement du monde, c'est qu'il y a certes l'ultralibéralisme d'un côté. Il y a eu mai 68 qui nous a privés de repères. Bon, ça, c'est pas mon interprétation, hein. C'est celle de Michel. Mmh. Et puis, il n'y a plus de Dieu, quoi. C'est-à-dire, il n'y a plus de spirituel. Et puis la civilisation chrétienne est en train de s'éteindre, et est-ce que c'était pas mieux avant, quand il y avait une forme d'ordre?
Mais ce qui est fort chez lui aussi, pardonnez-moi, je le connais pas suffisamment, mais quand même, pour avoir lu deux trois de ses romans, c'est qu'il y a une empreinte politique, sociale. Même quand ce ne sont pas des livres politiques, il y a un regard sur la société.
C'est la confrontation de l'être, de l'individu, et d'une intimité face au social,
c'est ça.
Et au monde, oui. Et au monde du travail.
C'est ça qui plaît aussi.
Et qui est très, très douloureuse. Et je pense que beaucoup s'y reconnaissent. Oui. Et on peut tous s'y reconnaître à un moment donné de notre vie dans ce narrateur Houellebecquien, même si c'est un homme d'ailleurs.
C'est ça.
on peut se reconnaître en tout cas là-dedans.
Oui. Voilà. Et quand on lui dit mais c'est incroyable, vous êtes visionnaire, vous anticipez, etc. Il répond ceci, Houellebecq, j'aime bien cette formule, je ne dis pas ce qui va arriver, je dis ce qui fait peur aux gens.
Oui.
Il y a quelque chose d'emprise avec le temps fort.
Ils savent que ça existe.
C'est ça. Ouais. Jean-Seb Desmarais sur Twitter, Sophie de Closet sur le hashtag Europe 1 nous dit: est-ce qu'on ne pourrait pas étaler sur une période plus grande les sorties littéraires et ne pas se cantonner à deux moments clés de l'année pour que les auteurs à grand tirage comme Houellebecq n'effacent pas la grande majorité des ouvrages?
Alors, de fait, c'est une question qui est posée généralement par tous nos collègues étrangers qui regardent le concept de rentrée littéraire comme si on était des grands malades, en disant « mais donc, en fait, vous publiez 600 romans, vous savez qu'il n'y en a que 60 qui vont émerger, qu'est-ce qui vous prend ?» De fait, on publie des livres toute l'année, des romans toute l'année. Je trouve que cette rentrée littéraire a de bon qu'elle crée une sorte d'excitation, d'événement et de rendez-vous assez inédit entre les Français, les médias, les libraires et la littérature. C'est marqué par les prix, donc ça dure assez longtemps. La rentrée littéraire, elle dure du mois d'août au mois de novembre, donc il y a quand même la place pour voir des livres émerger. À ce moment-là, Nelly ne me dira pas le contraire. Les journalistes ont plus de place dans les journaux, les libraires font des tables spéciales. Et puis, la vie des livres, elle est assez longue. C'est-à-dire que parfois, il y a des livres qui sortent en août et puis qui attendent leur tour et qui se voient couronnés ou remarqués un peu plus tard dans l'année.
Alors, c'est de ça dont on va parler justement, de ce bouche à oreille, de ces phénomènes. Comment naît un succès en dehors des cas d'exception comme celui de Houellebecq? Là, j'ai besoin de votre expertise à l'une et à l'autre. Sophie de Closet pour les éditions Fayard et Nelly Capriellan pour la rubrique Livre des Inrocks. N'hésitez pas à réagir comme Marie-Laure et Jean-Seb. À tout de suite avec vous, ma chère Julie.
39-21, c'est notre standard. Derrière le phénomène Houellebecq, qu'est-ce qu'un auteur à succès aujourd'hui ? Wendy Bouchard.
Et avec nos invités, nous en parlons de ces best-sellers. Que disent-ils de notre époque, de notre rapport à l'époque justement et à la lecture ? Nelly Capriellan est avec nous, responsable de la rubrique Livre des Inrocks. Et je précise la sortie en kiosque jusqu'à la fin du mois de janvier des Inrocks 2 spécial Houellebecq. Et Sophie de Closet, directrice des éditions Fayard. Alors on va parler, puisque vous commenciez à le faire, Sophie de Closet, de la manière dont se propage un succès. Alors ça peut être massif, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin même de donner une interview. Michel Houellebecq, ça fait 24 ans qu'il est installé, 7e roman, il a vendu presque 1 million avec le précédent, et là ça va aller tranquillement pour les éditions Flammarion. Pour vous, il y a aussi pour les jeunes auteurs un bouche à oreille qui parfois dépasse et qui est très beau. Tout à l'heure vous parliez de Joël Dicker, ce jeune belge de 35 ans, pour son deuxième roman suisse, pardon, c'était un petit peu ce cas-là à l'époque pour son La vérité sur l'affaire Harry Kébert.
La vérité sur Harry Kébert, il y avait déjà un gros c'était son deuxième livre, mais il y avait quand même un gros bouche à oreille. Oui. C'était la rentrée littéraire, il a eu un prix. Ça a marché très vite, très bien. Il y a eu un engouement à l'étranger. Ça s'est installé assez rapidement. Mais en effet, il y a des phénomènes que les médias ne voient pas venir. Vous avez cité des auteurs qui sont dans le top 10 des auteurs les plus vendus en France. Vous avez oublié la première femme qui vend le plus de livres, qui est à la 4e place, qui s'appelle Aurélie Valogne.
D'accord.
Qui est publiée aux éditions Mazarine.
Oui.
Et qui a commencé par être publiée à mettre son roman sur Internet, qui ensuite a été publié par Michel Lafon, qui a eu un succès en poche avec son premier roman Mémé dans les orties, qui aujourd'hui est quasiment à 1 million d'exemplaires, qui en a sorti 3 autres depuis. Le dernier s'appelle Au petit bonheur la chance, le prochain sort en mars, et qui s'est imposé dans le top 4 des auteurs les plus lus en France, un peu sous les radars des médias traditionnels et des prix, par un bouche à oreille.
Ça, c'est formidable.
Complètement inouï.
Ça veut dire que c'est encore possible, même quand on n'est pas dans les circuits les plus massifs, c'est encore possible de réussir, de percer dans ce métier.
Oui, bien sûr, il y a des rencontres qui se font de manière inattendue entre un auteur, une histoire, un univers et puis des lecteurs. Et aujourd'hui, il y a quand même un éclatement des moyens de prescription des livres. Et on a évidemment le réseau des libraires, évidemment les médias, mais aussi tout un monde de blogueurs, de réseaux sociaux, de recommandations assez horizontales de livres, d'emballements de lecteurs et de lectrices qui permettent à des romans de se faire connaître, à des auteurs de s'imposer en dehors de certains sentiers battus. Et aujourd'hui, une Virginie Grimaldi ou Aurélie Valogne sont dans les 10 auteurs les plus lus et les plus aimés en France.
Par exemple, vous, chez Fayard, vous publiez combien de livres par an ?
On en publie 200.
C'est énorme.
C'est moins qu'il y a quelques années, c'est un tiers de moins qu'il y a 5 ans.
D'accord.
Donc on essaye de réduire un peu la production.
Par réalité économique.
Oui, parce que oui, moi je pense qu'il faut qu'on soit plus exigeant et que le marché ne peut plus fonctionner comme avant. On avait l'habitude de dire que l'édition c'était un marché qui répondait à une baisse de la demande par une explosion de l'offre. Et ça a été vrai pendant très longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui le temps des lecteurs est de plus en plus précieux et un bien de plus en plus difficile à conquérir et qu'il faut avoir une production un peu resserrée pour donner de plus en plus de temps et d'énergie pour faire connaître les livres qu'on publie.
200 livres, combien de grands succès ? Soyons honnêtes, vous comme les autres, chez Fayard. Un grand succès, ça se chiffre à combien d'ailleurs ?
Ça dépend, à partir de 50 000, c'est d'accord. Un gros succès. L'an dernier, on en a eu une vingtaine de gros succès.
10%. Pour les autres, il y a des romans, des essais chez Fayard qui vendent très peu, comme chez d'autres maisons d'édition, c'est-à-dire moins de 1 000, 2 000.
Oui.
Ouais. Et ça fait partie d'une économie que vous assumez encore aujourd'hui ?
Oui, bien sûr, il y a une péréquation qui est en gros de... Sur 10 livres publiés, généralement 8 le sont à perte ou quasi-perte pour 2 qui financent les autres. C'est cette péréquation-là qui font l'édition. Mais tous les livres n'ont pas vocation à se vendre à 100 000 exemplaires.
Bien sûr.
Il y a beaucoup de livres pour lesquels vendre 5 ou 6 000, c'est absolument formidable. Et puis on essaye de construire des œuvres et de construire avec les auteurs. Les premiers livres de Michel Houellebecq n'ont pas été mis en place à 320 000. C'est une construction et l'accompagnement d'un auteur et d'une œuvre sur le temps. C'est des paris qu'on fait où la mise de départ pour un livre, un premier essai ou un premier roman n'est pas très forte. C'est pour ça qu'il y a une offre qui est très importante. Donc on peut se permettre de publier des livres à perte parce qu'on ne perd pas énormément d'argent. Et puis au fil des temps et des auteurs et des années et des œuvres, on essaye de construire quelque chose dans la durée et d'imposer un auteur, un style, une voix et une œuvre qui dure.
Mais c'est bien, parce que Sophie de Closet est tout à fait honnête aussi sur la méthode aujourd'hui de l'édition. Nelly Capriallon, vous avez vu le marché vous aussi évoluer. Vous occupez des livres pour les In Rock. Est-ce que ça vous semble aussi bon, aussi sain comme système, alors que les étrangers nous regardent
de manière assez étonnante ? Non, moi je trouve ça génial comme système français de l'édition française. Je pense que les éditeurs français sont les derniers grands éditeurs de littérature qui restent, parce que dans le reste du monde, y compris en Europe, croyez-moi, c'est beaucoup plus dur que ça. Il faut que chaque livre apporte, sinon il ne le publie pas. Et là, je trouve qu'il y a une façon d'opérer, de reverser à l'un, parce que c'est encore de la littérature. Il y a encore une exigence littéraire. Je pense qu'à force de privilégier que des livres qui se vendent, il y a aussi une forme de qualité qui risque d'être mise à l'écart, qui ne va peut-être pas intéresser énormément de personnes, mais qui doit être publié. Parce que même si ça intéresse, je ne sais pas, que 2000 personnes, c'est bien pour elles, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de livres très littéraires, par exemple, cette rentrée, qui ont été soutenus par la presse écrite et qui n'ont pas eu un lectorat dément. Et n'empêche que c'est des livres magnifiques qui doivent exister absolument si on veut avoir une vie littéraire et intellectuelle dans ce pays.
Voilà, c'est notre rôle aussi. Il y a les blockbusters, les best-sellers, les grands succès. Et il y a tous les autres en cette rentrée de janvier, 12 romans plus 1, celui de Michel Houellebecq avec 320 000 exemplaires mis en place en librairie. Flammarion ne prend pas un gros risque pour les vendre, ces 320 000.
Et je ne suis pas du tout inquiète pour Flammarion.
Voire retirer. Voilà. Avec Sophie de Closet, Nelly Capriallon, on fait le tour de ce succès et de ces phénomènes littéraires. Comment on crée une attente aujourd'hui autour d'un livre ? Nos invités nous en parlent juste après la pause.
Comment expliquer les grands succès littéraires ? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités, Nelly Capriallon, qui est responsable de la rubrique Livres des In Rock, et Sophie de Closet, directrice des éditions Fayard.
Et tout à l'heure, nous parlions de Michel Houellebecq, de ses succès. Nous avons évoqué l'écrivain Joël Dicker, l'affaire Harry Kéber vendue 6 millions d'exemplaires, des tempéraments. Guillaume Musso, qui est un bon exemple, qui est un taiseux, un gars très gentil d'ailleurs, adorable, qui a vendu 1,5 million d'exemplaires l'an passé. Voilà, romancier préféré des Français en 2017. Donc ça fait 2 ans même maintenant, parce que nous sommes en 2019, j'ai oublié la nouvelle année. Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, madame. Je me permets de vous donner la parole parce que vous voulez réagir sur Michel Houellebecq et ça nous donne encore un petit peu matière à rebondir sur vos propos. On vous écoute.
Voilà, tout à fait. Alors donc, à l'inverse de la précédente Marie-Laure, Marie-Laure aussi, eh bien écoutez, moi les livres de Michel Houellebecq, et je sais que vos interventions ont été passionnantes à ce sujet, les livres ont un effet thérapeutique sur moi.
Oui.
Parce que justement, ces situations complètement parfois désespérées me font rire, voilà. Et je dirais que c'est un petit peu l'effet d'un vaccin ou de l'homéopathie, c'est-à-dire je soigne le mal avec le mal, et que quelque part, c'est un mal pour un bien, puisque moi, au contraire, ça me fait rebondir sur tout ce qui peut être positif dans la vie à partir de ces livres-là.
Très bien, ça veut dire que, chère Marie-Laure, quand vous entendez qu'un Houellebecq va sortir, vous vous précipitez en librairie, commandez.
Oui. Oh là là, je l'ai fait réserver, bien heureusement, dans ma librairie de quartier du 13e arrondissement dans lequel je vis depuis 40 ans, justement. Voilà, et donc, lorsque j'y suis allée, j'ai eu l'idée d'en offrir deux parmi mes proches, mais il n'y en avait plus. Mais le mien avait été mis de côté.
Oui.
Voilà.
Et ben,
donc il faut attendre une semaine avant que nous ayons les exemplaires suivants.
Voilà. Et Sophie de Closet disait que cela fait, alors ce n'est pas votre cas, parce que peut-être que vous lisez assez régulièrement, Marie-Laure, mais que ça fait aussi revenir
beaucoup.
Les gens dans les librairies. Et ça, c'est bon qu'un phénomène littéraire soit aussi un effet locomotive, Nelly Capriélan, pour répondre à l'enthousiasme de Marie-Laure.
Oui, d'ailleurs, Marie-Laure, merci, parce que vous justifiez ma théorie, c'est qu'on lit aussi Houellebecq pour. Ça fait du bien, parfois. Voilà. C'est une vertu thérapeutique. Oui, je pense que quand les gens rentrent en librairie, juste je réponds à Wendy, quand les gens rentrent en librairie, je pense qu'ils peuvent aussi ressortir avec un autre livre.
Oui.
C'est-à-dire que Houellebecq peut être en effet une locomotive pour faire acheter les wagons de qualité qui se trouvent autour.
Oui.
Oui, voilà, bien évidemment.
Voilà, ce qui est votre cas aussi, Marie-Laure. Merci pour cette petite intervention et bonne lecture alors. Hein, parce que c'est pas commencé.
Ah oui,
encore,
merci.
Voilà.
C'est la cerise sur le gâteau. Voilà. Je n'ai pas encore commencé.
Et bien, régalez-vous.
J'ai fini un Tom Wolfe.
Merci, Marie-Laure.
Bon goût, Marie-Laure.
Au revoir et merci de m'avoir interrogée.
Merci, Marie-Laure. Sophie de Closet, comment on crée une attente autour d'un livre aujourd'hui? Tout à l'heure, on a parlé des livres alors qui peuvent naître comme ça, par un bouche à oreille assez magnifique et miraculeux. Pour le reste, on travaille vraiment justement la mise en place quand on fait des paris, comme vous sur les Aurélie Vallone, par exemple. Voilà.
Ah bah Aurélie Vallone,
maintenant c'est un
des auteurs les plus importants en France en termes de vente et de rayonnement. On fait tous la même chose, c'est-à-dire que nous, on est tous persuadés que nos auteurs sont formidables et que leurs livres sont exceptionnels. Et donc, du coup, on commence avec les commerciaux, nos équipes commerciales qui vont voir tous les points de vente. Et on a de la chance en France d'avoir un réseau protégé, notamment par la loi Langue sur le prix unique du livre, qui maintient un réseau de libraires incroyablement important. Et donc, ils vont voir tous ces points de vente. Et donc, on leur donne généralement le livre à lire avant quand on pense qu'il est formidable. On essaie de déployer des trésors d'énergie et de créativité pour qu'ils lisent nos livres plus que les autres. Et puis ensuite, on va voir Nelly et tous ses confrères en leur disant « Mais je t'assure, dans toute cette pile, c'est le mien qu'il faut que tu regardes. Il est merveilleux, il est extraordinaire. » Et puis ensuite, on les donne aux blogueurs. Et puis ensuite, on fait les libraires invitent beaucoup d'auteurs qui se déplacent en France pour faire des signatures. Et puis
les blogueurs, ça devient important aussi pour vous. Maintenant, c'est une communauté qui n'est pas virtuelle parce qu'elle fait vendre aussi, sur laquelle il faut s'appuyer de plus en plus. Sophie de Closet.
Oui, en effet, sur les réseaux sociaux, c'est un outil de plus pour essayer de faire connaître nos livres, alors qu'il est encore difficile à manier parce qu'il est extrêmement éclaté et encore nébuleux, mais c'est évidemment un outil de plus pour faire valoir la qualité de nos livres et de nos auteurs.
Et vous, quand Sophie de Closet vient vous voir, Nelly Capriélan, comme elle vient voir d'autres supports pour parler des livres, c'est un crève-cœur pour vous. Vous êtes face à une rentrée, par exemple, en janvier, 493 romans. Comment vous faites votre choix? C'est parfois aussi bonheur la chance.
C'est pas un crève-cœur quand Nelly nous voit.
Ah bah non, j'imagine.
Elle ne nous fait jamais sentir en tout cas.
Non, c'est très agréable de voir Sophie de Closet.
Non, mais comment on fait un choix? C'est terrible.
C'est très dur, on se fie à son intuition.
C'est ça.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je pense qu'il y a des livres qu'on rate.
Il y a des pépites.
Temporellement et physiquement, c'est pas possible de lire 480 livres en un mois pour préparer une rentrée littéraire. Il y a des pertes. mais on peut les rattraper un peu plus tard. Enfin, voilà, je perds pas espoir de. Non, écoutez, on se fie un peu à, d'abord à ce que nous dit. Par exemple, si je vois Sophie de Closet, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance. Elle va me dire, écoute, ne perds pas ton temps avec tel livre, tel livre, tel livre. C'est pas pour toi. C'est pas parce qu'elle connaît la rubrique livre des Inrocks. Elle sait, elle connaît mon goût, notre goût et notre ligne éditoriale. Et puis, je vais plutôt aller vers les livres qu'elle me conseille, qu'elle pense être pour la rubrique.
Bien sûr. Sauf que sur vos 200 livres, vous pourrez en parler que de 2 ou 3, Anneli Capriélan. C'est ça le problème aussi de cette réalité.
Oui, mais chaque journaliste littéraire, oui, chaque journaliste, chaque support a son auditoire, ses lecteurs, sa ligne éditoriale. Et donc, ce qui n'est pas pour Nelly sera pour peut-être d'autres.
En plus, ça ne nous empêche pas, pardon Sophie de Closet, ça ne nous empêche pas de piocher ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne suit pas non plus les directives des éditeurs.
Ah bah non, vous êtes libre, après c'est indépendant.
Nous sommes libres.
Vous êtes libre et après, on fait confiance au lecteur, voilà, qui peut s'emparer d'un succès. Alors, des années après, pendant la pause, vous nous parliez juste de Salinger,
l'attrape-cœur. Oui, parce que j'avais vu dans la presse américaine. Ils avaient sorti une courbe avec les grands chefs-d'œuvre du XXe siècle et les best-sellers pour chaque année. Et c'était assez amusant de voir que certains livres qui sont des classiques, comme par exemple L'attrape-cœur de Salinger, n'avaient pas du tout été un best-seller l'année de sa parution, mais en fait avaient commencé à marcher 4 ans après la sortie. Et qu'en revanche, les best-sellers de l'année de parution du premier roman Salinger, moi, ne me disaient rien, je l'admets publiquement.
Oui.
Et donc, du coup, il y a dans le livre, contrairement par exemple au cinéma, où on a l'impression que les jeux sont faits le jour de la sortie,
une durée de vie
grâce aux libraires aussi, qui ont parfois des enthousiasmes, qui les gardent. Et puis ensuite, les livres paraissent en poche. Et puis, vous pouvez avoir des livres qui sont adaptés au cinéma des années plus tard et qui donc mettent un coup de projecteur sur une œuvre. Donc du coup, les jeux ne sont jamais totalement faits, ce qui est assez réjouissant.
Les phénomènes littéraires et la petite cuisine aussi de ces éditions, c'est très intéressant, Sophie de Closet, de nous en parler. Nelly Capriélan, encore quelques instants ensemble pour faire ce tour de la question sur les livres dans tous leurs états. Tout de suite.
C'était Diva Foule. Retour sur les succès littéraires. Que disent ces best-sellers de notre époque? On en parle avec Wendy Bouchard et ses invités.
Quelques minutes encore en compagnie de Sophie de Closet, directrice des éditions Fayard, et Nelly Capriélan, responsable de la rubrique Livres des Inrocks. Je voudrais qu'on dise un petit mot des grands auteurs à succès du moment. Alors, on parlait d'un top 10 tout à l'heure. Parmi lesquels Guillaume Musso, Marc Lévy, Michel Bussy. Alors tous ces auteurs-là, est-ce que vous les traitez d'une manière ou d'une autre dans les Arts Occuptibles? Parce que vous avez aussi une ligne éditoriale particulière.
Oui, on a...
La littérature de divertissement, dites.
Disons que la littérature de divertissement, enfin la littérature populaire, voilà, moi j'appelle plutôt comme ça, oui on la traite, mais plutôt comme si c'est littéraire, comme on fait une critique littéraire comme tous les autres, et puis sinon, comme pourquoi ça marche, comme phénomène, qu'est-ce que ça touche chez les gens, je trouve que c'est toujours intéressant, on ne peut pas passer à côté, voilà, il faut s'emparer aussi de ces phénomènes quand on est journaliste, c'est intéressant, ça dit quelque chose de l'époque, quelque chose de nos contemporains.
Par exemple, est-ce que vous avez parlé de Raphaël Giordano, que moi j'ai découvert
Alors là, je vous avoue que je suis un peu dépassée, là, tout d'un coup, je suis un peu prise de court par tous ces gens qui arrivent. Il y avait aussi...
Parce que là, entre littérature de divertissement, pour le coup, et développement personnel, elle a vendu 1 million d'un premier roman. Ouais. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Vous en avez entendu parler, Sophie de Fayard, évidemment.
Oui, bien sûr, ça a été un gros succès
il y a quelques années. Chez vous, elle est chez Erol, mais c'est vrai que il y a des coïncidence, on est un peu dans l'air du temps, il y a ces romans.
Ça, c'est des phénomènes vraiment d'édition. Ouais. Il y avait aussi chez Actes Sud, cette Suédoise, je crois, ou Norvégienne, qui a écrit sur l'intestin.
Oui.
Alors là, intestin, pas possible.
Allemand. On fait une grande émission là-dessus.
Oui. Voilà. Donc, il y a des phénomènes comme ça.
Le charme discret de l'intestin.
Et je pense que c'est en effet que peut-être il y a une tendance qui est le bien-être, la santé. Voilà, je pense que Flammarion avait aussi cartonné avec le régime du camp. Voilà, il y a des choses comme ça, mais alors là, c'est de la périphérie. Enfin, pour moi, c'est un peu périphérique.
Vous allez là-dedans, un peu dans tous les genres, chez Fayard aussi, Sophie de Closet?
Oui, on a alors pas de régime, mais on a des publications en effet qui vont de l'histoire, les essais, la musicologie la plus pointue à en effet Aurélie Vallone, Virginie Grimaldi, Frédéric Lenoir avec le Miracle Spinoza dont on a vendu 300 000 exemplaires, Michel Obama. Donc oui, c'est très très vaste.
C'est ça la vertu aussi d'une maison d'édition comme la vôtre, c'est que justement on ne se contente pas à un lectorat, on fouille tous les domaines. Potentiellement intéressant.
Oui, on ne met pas de limite à nos enthousiasmes et à nos curiosités.
Oui.
C'est une grande chance.
Je ne sais pas si vous prévoyez le best-seller à venir. Évidemment, on parle plus des mêmes chiffres, comme on parle plus des mêmes chiffres en musique. Les disques d'or, c'est plus aujourd'hui ce que c'était il y a 50 ans. Un gros, gros succès en librairie, c'est au-delà de 100 000 exemplaires vendus aujourd'hui, Sophie de Closet.
Oui, au-delà de 100 000, c'est vraiment des très gros best-sellers. Et le phénomène auquel on assiste, c'est un phénomène de polarisation des ventes,
oui,
sur un très petit nombre de ventes.
C'est ça.
C'est-à-dire que ce qui se vend beaucoup et se vend très longtemps. Mmh. Le charme discret de l'intestin, la vie secrète des arbres, oui, les livres de Harari, par exemple, sont des livres qui sont depuis 2 ans, 3 ans la liste des meilleures ventes. Frédéric Lenoir, Le miracle de Spinoza, on l'a sorti en novembre 17, on en a vendu plus en 18 qu'en 17.
Ah, c'est fou.
Et ça continue à se vendre.
Oui.
C'est comme si les gens avaient moins de temps, de façon générale, en tout cas l'impression qu'ils avaient moins de temps pour lire et même moins de temps pour choisir les livres et que face à l'avalanche de publications, mmh, du coup, ils se disent, ben, si ça se vend, ça se vend. Enfin, je ne sais pas très bien pourquoi, mais en tout cas, cette polarisation et cette best-sellerisation est un phénomène récent et très important.
Et pour le coup, les libraires sont là vos points d'ancrage essentiels, hein, parce que c'est à eux de garder ces ouvrages-là pour justement alimenter ce... Ils le sentent.
Bien sûr, ils le sentent, ils les gardent longtemps et surtout, c'est ce que disait Nelly, c'est-à-dire que la joie d'avoir ces libraires, c'est que quand on entre dans une librairie, on ressort généralement avec un livre dont on ignorait l'existence. Alors que quand vous allez sur une librairie en ligne,
oui,
le livre est disponible, mais généralement vous achetez ce que vous aviez décidé d'acheter. Et puis c'est pas
les algorithmes,
l'algorithme
Alors justement, si on achète Houellebecq, on achète quoi d'autre en sortant de la librairie là pour cette rentrée de janvier, Nelly
Sapiens, ça continue de se vendre. Ça date de quand, Sapiens?
Deux ans.
Ça continue de se vendre. Hein.
Oui, il y en a plein qui continuent de se vendre. Ouais. Je sais pas, mais le Simon Liberati Occident chez Grasset que j'ai beaucoup aimé, qui est un excellent écrivain. Le Simon Johannin, Simon et Capucine Johannin chez Alia, Nino dans la nuit, qui est un magnifique deuxième roman de Simon Johannin, ouais, chez Alia, qui est alors là aussi sur les jeunes et la précarité. C'est magnifique. Enfin, il y en a beaucoup d'autres.
Merci. Et je renvoie aux Un Rock 2 hors série en kiosque jusqu'à la fin du mois de janvier. Merci Nelly, merci
sur
Sophie.
Welbeck.
De Closet sur Welbeck, absolument. Merci et Julie, à demain.
À demain. Dans un instant, Anne Roumanoff sur Europe 1.